neurosciences sociales ont l'ambition de regarder le cerveau d'une autre manière que les neurosciences, on va dire, classiques, c'est de prendre en compte l'individu en interaction avec son milieu social. Et ça, c'est une démarche importante. En gros, c'est de combiner ou d'articuler deux disciplines qui sont pas au même niveau aux États-Unis qu'en France, d'ailleurs. La psychologie sociale américaine est une discipline académique qui est en plein essor, qui a toujours été, d'ailleurs, qui est devenue académique. On peut faire beaucoup d'argent en professeur de psychologie sociale aux États-Unis, en partir dans une business school. En France, c'est une discipline qui est moribonde. Vous savez, il y a peut-être deux ou trois personnes qui sont un peu connues. Une d'entre elles qui est décédée, qui était surtout connue parce qu'elle avait un discours relativement idéologique sur la psychologie sociale et pas très scientifique. Je ne note pas. C'est très différent de ces études où la psychologie sociale est une discipline empirique. Donc l'idée qu'on a maintenant, par les États-Unis partout, c'est de combiner ces deux disciplines. Les neurosciences, je suis un neuroscientifique, je ne suis pas psychologue non plus, j'ai ma thèse est en biologie. Et s'intéresser à comment combiner deux, et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intéresse nous aussi, c'est les choses les plus subjectives de l'être humain, l'intersubjectivité. C'est ma seule diapositive en français, je suis désolé. J'ai essayé de les traduire de l'anglais au français, et j'y ai renoncé, je vous dirai à quelle diapositive j'ai renoncé. Donc, première chose qu'on va voir ensemble, c'est que l'intersubjectivité a plusieurs meanings, a plusieurs sens. Et ensuite, je vais travailler simplement sur un de ces aspects d'intersubjectivité qu'on appelle l'empathie. On verra en sorte, ensuite, qu'est-ce qu'on entend par partage affectif. On ne parle pas le français souvent. Et puis, je vous montrerai dans mon travail, une partie de mon travail maintenant, c'est d'utiliser la perception de la douleur chez l'autre, chez soi, mais surtout chez l'autre, comme un moyen d'accès à un outil pour étudier les mécanismes neurologiques qui sous-tendent l'expérience empathique. Vous voyez, je suis plus dans l'environnement. Après, s'il y a peut-être plus de rapide, mais étudier les mécanismes neurologiques, c'est ce qui m'intéresse, qui sous-tend une expérience très subjective qu'on appelle l'empathie. Là, on étudie l'empathie en étudiant la douleur, c'est simplement un moyen d'accès. L'intersubjectivité a énormément de sens, et je vous en liste quelques-uns, parce que c'est ceux qui sont les plus souvent relevés en psychiatrie et en psychologie. On peut la définir comme un concept phénoménologique et métaphénoménologique, et qui essaie de rendre compte de l'idée qu'on a un partage, quand on parle d'intersubjectivité, on parle de partage entre un objet d'un objet qui est un objet de référence, entre des esprits qui sont conscients, c'est très important. Très souvent, on n'entend pas l'intersubjectivité, on va le garder pour l'espèce humaine en particulier, peut-être les mensages, mais c'est surtout pour l'espèce humaine. Ça, c'est vraiment le sens le plus courant de l'intersubjectivité. Et l'intersubjectivité souligne que cette capacité que nous avons de partager nos cognitions est essentielle pour, je ne sais pas comment on dit en français, échec, ou de nos idées, ou nos relations. Et le langage joue un rôle évidemment crucial. Le langage n'est plus un processus privé, mais un processus d'intersubjectivité. Et c'est sans doute spécifique à l'homme aussi. Donc c'est ce qu'on entend par intersubjectivité. Évidemment, on est tous d'accord ici qu'on a des esprits qui sont individualisés au départ, qui deviennent petit à petit graduellement sociaux et qui apprennent le contenu des autres subjectivités par apprentissage, par interaction. Et quand j'entends par les sentiments, les croyances, les habitudes, les normes, les comportements sont partagés entre plusieurs esprits. Donc voilà ce qu'on entend souvent en psychopathologie par intersubjectivité. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a dans les interactions sociales humaines. On a cette caricature qui était dans le New Yorker, où on arrive à élaborer des expériences relativement complexes. Vous voyez, c'est cette personne qui dit à sa partenaire « Of course, I care about how you imagine, I thought you perceived, I wanted you to feel. » Quelque chose qui est très métacognitif et cérébral, que nous sommes capables de faire. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, à la suite de ma conférence, avant ça, on n'est pas né avec une sorte d'empathie comme ça, circulaire et métacognitive. Elle est importante, on l'utilise, mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus primitif, qui est basé sur deux aspects, je trouve, qui sont importants et qui sont complémentaires. un aspect qui est celui de la psychologie du développement de l'enfant, comment l'enfant se développe, comment un enfant développe son intersubjectivité, sa subjectivité plus son intersubjectivité. Et on verra que c'est aussi tout à fait compatible avec les mécanismes de l'évolution. Nous sommes comme les autres espèces, on va reconnaître que nous sommes comme les autres espèces, un produit de l'évolution, nos corps, nos cerveaux, nos esprits, nos sociétés sont façonnées par des millions d'années d'évolution, et c'est quelque chose qui est dur à accepter politiquement. Encore une fois, on est découpé de la culture, on a découpé l'évolution, c'est inexact, la culture est un produit d'évolution. Donc ce que je dois vous dire, c'est que, à la fois pour des raisons évolutionnistes et développementales, il y a ces formes de subjectivité qui sont très avancées, qui sont celles que vous utilisez en tant que psychanalyste, elles sont basées, elles naissent, elles se développent à partir de formes qui sont beaucoup plus élémentaires, qui sont cruciales. Quand je dis crucial, c'est parce que si elle n'existe pas, il est peu probable qu'on arrive à développer une forme beaucoup plus élaborée. Il n'y a pas de métacognition si au départ on n'a pas une capacité de partage affectif, de compréhension des signaux émotionnels, etc. Vous serez d'accord que donc, l'idée, c'est que la base des interactions humaines et de la compréhension des autres est basée sur ces tracts, ces comportements qui sont avant tout sensorimoteurs, perceptifs et émotionnels, qui sont non conceptuels et qui existent, comme vous voyez dans cette image, dans les interactions entre une mère et un bébé. Ce sont des interactions qui ne sont pas conceptuelles, en tout cas dans le cerveau du bébé, c'est peu probable. On n'a pas assez, je veux bien, dans cet esprit. Et elles jouent ce rôle important. Alors maintenant, je vais vous parler d'empathie. Et plutôt que de vous donner une définition d'empathie, parce qu'il y en a 50, on n'a aucun intérêt, je voudrais plutôt vous montrer cette petite vidéo, rien de spécial, c'est une vidéo tout à fait, je vais dire naturelle, c'est des expériences que je fais avec mes enfants, des observations, pas des expériences. C'était quand mon fils parlait encore français, il y a quelques années, il ne parle plus français, mais oh, il avait un petit peu trop vite, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous jouer cette petite vidéo, si j'arrive à tourner dessus. Si vous regardez cette vidéo, imaginez, bon, une vidéo, ça peut être une interaction réelle, je pourrais vous demander après l'avoir vue, qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant ? Vous avez senti inquiet, touché, je le dis en anglais, soft-hearted, alarmed, compassionate. Vous avez tous ces sentiments qui peuvent naître. Je ne dis pas que vous avez tous, mais on peut demander aux personnes et vous dire qu'est-ce que vous ressentez tout de suite quand vous voyez ça. Et si on fait cette expérience avec des centaines d'étudiants, ce qui a été fait d'ailleurs, ici maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une distinction très importante qu'il faut tout de suite mettre quand on parle d'empathie, qui est souvent confondue d'ailleurs, et s'il y a des raisons très simples, des raisons physiologiques, qui est celle entre l'empathie et la détresse personnelle. Et là, c'est la diapo que je ne pouvais plus traduire, j'ai arrêté, j'ai immédiatement arrêté. Donc si on est le témoin de la douleur, surtout physique, de quelqu'un, en général, je dis bien en général, ce sont des analyses factorielles qui ont été faites par les psychologues sociaux, c'est pas pour moi, en général, les gens ressentent soit des sentiments de sympathie, aidez-moi à traduire, on est touché, on est, je ne sais pas comment on dit, on a des sentiments de sympathie, de chaleur envers l'autre, etc. Vous pouvez dire aussi bien quoi. Et ces adjectifs qui décrivent des feelings, ils vont tous se mettre dans un facteur expliqué par l'analyse factorielle qui semble indiquer plutôt une réponse orientée vers autrui. C'est ça l'important. Une réponse orientée vers autrui qui est une réponse émotionnelle qui est concluante avec l'état de la personne, en état de besoin ici. D'autres adjectifs qui vont décrire cette fois-ci un sentiment d'être alarmé, d'être troublé, d'être en détresse, d'être... je ne sais pas comment traduire, excusez-moi. Ces sentiments, eux, vont expliquer un autre facteur qui est orthogonal au premier, c'est ça important, qui est orthogonal, et qui indique plutôt un sentiment orienté vers soi, qui est plutôt une réponse aversive, qui est évoquée par la vue d'une personne en danger ou la personne qui souffre. Ça, c'est très important. dans mon travail, c'est très important d'essayer, on va voir comment on peut opérationner ça, distinguer ces deux aspects. Arrêtez-moi d'en parler. Et pour finir sur cette première partie hein, de théorie, je crois que c'est important de comprendre ce que sont ces concepts. Donc l'empathie, on va la décrire, tout au long de cet exposé, en tout cas dans mon travail, comme une réponse émotionnelle qui provient d'un état d'une autre personne, qui est déclenché par une autre personne. Cet état peut être vu en première personne, comme vous le voyez maintenant, mais vous pouvez simplement aussi imaginer une autre personne, ça marche aussi bien, pas besoin d'être le witness, et qui implique, lui, au minimum, une distinction entre soi et autrui. S'il n'y a pas de distinction entre soi et autrui, ce n'est pas la peine de parler d'empathie, on peut parler de contagion émotionnelle, mais pourquoi parler d'empathie dans ce cas-là? On gardera le mot empathie pour cette idée qu'il y a un partage émotionnel qui est non conscient. Et il y a une distinction minimale entre soi et autrui. C'est différent de la sympathie, en tout cas au sens anglais du terme, qui, cette fois-ci, est un concept qui veut dire qu'on est concerné par l'état de l'autre. On en parlera de sympathie, non pas d'empathie. On peut très bien avoir de la sympathie pour quelqu'un dont on ne partage pas l'émotion. On peut très bien avoir de la sympathie pour des enfants qui souffrent au Darfour. Et vous ne partagez pas leur état. Vous n'avez jamais été au Darfour. Vous n'avez jamais souffert de ce qui se passe depuis des années là-bas. Nous n'avons jamais su ce que c'était de ne pas manger pendant des semaines. Et pourtant, on peut avoir de la sympathie pour eux. Donc la sympathie ne nécessite pas de partage émotionnel. Et enfin, on vient de le voir, la détresse émotionnelle, c'est un état aversif, comme celui de l'anxiété, et qui n'a pas besoin lui non plus d'être concluant avec l'état de l'autre. Un chirurgien qui opère un patient ne partage pas l'état de son patient. Et vous pouvez être le witness d'une opération, ça vous dégoûte, ça vous disturbe, c'est la destinée de subotérex, ça veut dire que vous partagez l'état de cette personne. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est de pouvoir relier, ça sera ici à mon professeur Bittoschut, c'est de pouvoir relier différents niveaux. Parce que je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous, bon, je connais les travaux, moi je ne crois pas qu'on puisse réduire, bon, la psychopathologie aux neurosciences, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ce sont des niveaux de complexité qui sont différents. Et ce sont des niveaux qui doivent pouvoir s'articuler. C'est ça mon idée. Et c'est la vôtre aussi. Donc il y a un niveau qui est phénoménologique, qui est celui de penser que l'empathie, c'est un sentiment de similarité, un sens de similarité entre les sentiments qui sont exprimés par les autres et ceux qu'on ressent, sans confusion entre soi et autrui. S'il y a cette confusion, ce n'est pas de l'empathie. Et de ce niveau phénoménologique, je vais non pas le réduire, l'articuler à un niveau qu'on va appeler fonctionnel, où on va essayer de décrire le niveau phénoménologique en différents composants. Non, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher les bases de l'empathie chez l'homme. C'est un processus simpliste, ça ne veut rien dire, ou les bases du transfert. C'est ce qui plairait aux journalistes, bien sûr, parce que c'est simpliste. Ça ne marchera pas. C'est l'idée simpliste du cerveau et de la complexité humaine. En revanche, ça, c'est plus intéressant. Donc, du niveau phénoménologique, on va passer à un niveau fonctionnel. On essaie de décrire des gros composants, c'est des macro-composants, qu'on peut redécouper ensuite. Et dans mon cas, il y en a trois qui sont assez simples. Le partage affectif, la nécessité de distinguer soi d'autrui, d'être aware of oneself, et la capacité d'être, de réguler ses émotions, ce qu'on appellera la flexibilité mentale. Et alors, à partir de ce niveau fonctionnel, on peut maintenant descendre à un autre niveau, qu'on appellera un niveau structurel, et cette fois-ci s'intéresser, en tant que biologiste, aux mécanismes, aux réseaux cérébraux qu'on peut décrire avec les machines qu'on a aujourd'hui. Ils ne sont certainement pas aussi bien que celles qu'on aura dans 100 ans. Et c'est un progrès quand même, d'essayer de voir quels sont les réseaux neuronaux qui contribuent à chacun de ces composants fonctionnels. C'est intéressant. Pourquoi ? Pas simplement pour faire plaisir aux psychanalystes, mais parce que après on peut remonter la chaîne. On peut la remonter, on peut monter du niveau structurel au niveau fonctionnel, je n'ai pas dit qu'on passe du niveau structurel au niveau phénoménologique, et du niveau fonctionnel au niveau phénoménologique. C'est intéressant, parce qu'on va pouvoir faire des prédictions. Par exemple, imaginons que certains individus, on les connaît, n'ont pas cette capacité de partage affectif. Ça aura des conséquences au niveau phénoménologique, et nous, on pourra regarder s'il y a des patterns de réseaux neuronaux qui ne fonctionnent pas et qui peuvent rendre compte de ce partage affectif. Je vous donne un exemple tout simple. les psychopathes, nous savons aujourd'hui que enfin, c'est pas nouveau, les psychopathes ont apparemment une difficulté dans le partage de certaines émotions, simplement trois, certainement la détresse. Un psychopathe ne lit pas la détresse émotionnelle d'autrui. Un psychopathe n'est pas touché par la peur de l'autre. Quand quelqu'un a peur, il ne sent pas, il ne ressent pas lui-même. Et il semblerait qu'il y ait aussi un déficit sélectif dans le dégoût. C'est tout, au niveau émotionnel. C'est tout, c'est beaucoup. C'est intéressant, et puis je pourrais vous montrer qu'effectivement, si on fait des études d'IRM fonctionnelles, on s'aperçoit que les psychopathes n'ont pas l'activation de l'amygdale quand ils voient des personnes qui ont peur, etc. Et ça a des conséquences phénoménales. Percevoir les autres, la douleur des autres, est un moyen, simplement. Un moyen intéressant parce qu'on peut quantifier les choses pour accéder aux mécanismes qui sont impliqués dans l'empathie. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que la douleur est un aspect affectif qui est essentiel, qui a une importance évolutionniste et immense. Sans douleur, on ne pourrait pas survivre. La douleur nous sert à préserver notre intégrité. C'est important, c'est physique. C'est physique, c'est ce qu'on body. C'est quelque chose de très c'est subjectif, c'est physique. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la nature sociale de la douleur. Je reprends mon fils. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi lorsqu'on a mal, on exprime aux autres. Ça n'a pas de sens si vous mettez ça dans un contexte évolutionniste. Si vous êtes une proie et que vous montrez que vous avez mal, ce serait mieux pour
vous. Oh, le problème de jamais se marcher.
Si ça veut dire remarcher grâce à la douleur. Donc, exprimer la douleur, l'idée c'est que si on l'exprime par des expressions faciales, par des pleurs, la raison dont on l'exprime, c'est qu'elle peut produire ou donner lieu à un signal qui peut motiver les autres de nous aider. En tout cas, c'est ce que font les enfants. C'est pas que nous, on montre moins notre douleur. Et l'autre raison pour laquelle je m'intéresse à la douleur, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution des choses, et sur le plan évolutionniste, de voir notre histoire, c'est que les êtres humains ne sont pas les seuls sensibles à la douleur des autres. Bien sûr, nous partageons des mécanismes associatifs avec d'autres organismes. Le passage en cheval. Le fait qu'on est sensible à la douleur exprimée par les autres, c'est quelque chose qui existe dans d'autres espèces. Et je ne vais pas aller chercher les chimpanzés tout de suite, je vais commencer par quelque chose. Par une espèce beaucoup plus lointaine. Des rats. Une vieille étude de Church en 1959. Des rats à qui on avait appris à appuyer sur un levier pour obtenir de la nourriture arrêtent d'appuyer sur ce levier quand ils s'aperçoivent que lorsqu'ils appuient pour avoir la nourriture, leur comportement est associé à la délivrance, pardon pour le français, d'un choc électrique à un autre rat. Vous avez compris le système ? Le rat a faim, il appuie sur son levier pour obtenir la nourriture, mais il voit dans votre cage que quand il fait ça, c'est associé à un choc électrique chez votre rat. Les rats s'arrêtent. Ils n'aiment pas faire ça. Mazarin, chez les singes rhésus, pareil, refuse de tirer sur leur chaîne qui leur donne de la nourriture quand il voit que ce comportement est associé à un choc électrique chez un autre animal. Et là, une anecdote, et les anecdotes sont très intéressantes, un de ces singes a refusé de se nourrir pendant 5 jours, et un autre pendant 10 jours, plutôt que de voir un compagnon recevoir un choc électrique. C'est pour vous dire, l'idée qu'on est capable de détecter la souffrance chez l'autre, quelque chose qu'on partage avec d'autres espèces animales, c'est un mécanisme primitif, essentiel, à notre survie sociale, en tout cas. Et donc, chez les bébés, par exemple, si vous faites cette expérience qu'on fait Martin et Carl, il y a quelques temps, quand un bébé entend un autre bébé crier, il se met à crier. Alors, on a appelé ça une sorte de empathic arousal, c'est une sorte de mécanisme automatique. L'aspect qui est intéressant, c'est que quand un bébé entend un autre bébé crier, effectivement, il se met à crier. Quand on fait écouter à ce bébé son propre cri qui a été préenregistré, le bébé ne crie pas. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est pas que la contagion émotionnelle, parce que contagion émotionnelle, pourquoi le bébé ne crie pas quand il entend son propre cri? Il ne crie pas parce qu'il différencie soi de l'autre très tôt. Et contrairement à ce qui a été dit pendant très longtemps, où le bébé est dans un état de fusion, c'est pas tout à fait exact. Le bébé n'est pas dans un état de fusion pour n'importe quoi. pour des choses très essentielles comme la douleur, ils distinguent le cri de l'autre de son cri. Ça marche d'autant mieux que ce sont les bébés du même âge. Si c'est les plus âgés, ça déclenche moins des cris. Et si on fait écouter des cris de chimpanzés, ça ne marche pas. Pourtant, c'est très proche d'un cri de bébé humain. Mais ça ne déclenche pas cette détresse chez le bébé. Deux mots vite fait, parce que c'est très compliqué, mais c'est quand même important. La douleur, on sait tous, à son origine dans à la périphérie dans les viscères, des terminaisons libres de neurones, synapse dans la corne dorsale de la moire, cette information va être envoyée au système nerveux central par deux voies, la principale c'est la voie spinothalamique, et va se projeter dans le thalamus, puis dans le cortex somatosensoriel. On a des mécanismes qu'on connaît bien dans la douleur. Je vois qu'il y a Bernard Laurent dans la salle, on fait partie de ces gens qui travaillent longtemps sur la douleur. Vous connaissez ça très bien. C'est compliqué, vous voyez que c'est très compliqué, mais les voies sont connues, il y a énormément de recherches en neurophysiologie. Et étonnamment, ça doit être très frustrant pour des gens comme Bernard Laurent, parce qu'ils ont travaillé pendant des années sur la douleur, bien avant moi, et puis ils voient arriver des personnes qui disent « Oh tiens, on s'intéresse à comment on perçoit la douleur chez l'autre, et j'imagine pour début. » Sortir ses premiers papiers de Lénia ou de Singer, c'est dire « Oh, on aurait dû le faire avant vous quand même, n'est-ce pas ?» Enfin, c'est comme ça que les choses... Ce qui est important pour notre discussion maintenant, c'est que très souvent les gens qui travaillent sur la douleur considèrent qu'il y a deux aspects dans la douleur. On différencie deux aspects. Un aspect qu'on appelle sensorique discriminatif, c'est l'aspect que la douleur est à un endroit précis, il y a une intensité et une localisation du stimulus, et on pense que ce traitement discriminatif de la douleur le cortex somatosensoriel primaire et secondaire, donc l'insula postérieure, contribue à cet aspect sensorique discriminatif. Il y a l'autre aspect de la douleur, qu'on appelle l'aspect affectif motivationnel, c'est ce sentiment d'évaluation qu'on a, et de, c'est pas une émotion la douleur, mais de sentiment de unpleasantness qu'on a généralement avec la douleur, et qui est cet aspect de la douleur qui sont relativement dissociables, c'est ça qui est intéressant, je veux dire, ils arrivent ensemble, ou celui-là arrive avant celui-là, le sensorium éducatif dans celui-ci, sont relativement distincts au sens de quelles sont les régions du cerveau qui les supportent. Dans la première étude qu'on a voulu faire, elle a fait quelque chose de très simple. On s'est dit, les êtres humains ont quelque chose d'assez intéressant, ils sont capables d'imaginer. On n'est pas obligé de leur faire mal, on peut demander d'imaginer, ça marchera aussi bien. C'est ce qu'on a fait dans cette première série d'études. On a demandé à nos sujets dans le scanner, je vais recommencer parce que c'est un peu bouillant ce que je voulais. On sait par des travaux qui sont faits par ailleurs dans d'autres domaines que si on demande à des personnes de s'imaginer dans une situation émotionnelle ou de douleur ou de détresse, s'imaginer soi, généralement on déclenche la détresse émotionnelle. On a vu ce que c'était, une réponse orientée vers soi et on veut s'en débarrasser. Si on a mal, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se retire de la source qui fait mal. C'est normal, c'est un exercice de survie, c'est de la détresse. Et si on imagine l'autre, on peut déclencher l'empathie, un sentiment orienté vers l'autre. On peut faire ça juste par l'imagination. Donc on a demandé à nos sujets, avec des instructions de prise de perspective, comme on dit, d'imaginer deux types de situations selon que ça leur arrive à eux ou arrive à l'autre. Voilà, ils sont dans un scanner IRM. Ne vous occupez pas de ces détails. Et dans le scanner, on leur montre des photos, très rapidement, qui sont... Je ne sais pas si vous avez besoin de les voir, je vais les repasser. Moi, je ne les ai pas vues. Tout est animé, là, du coup. Donc, ils voient ces photos où on leur dit, imaginez que c'est vous qui vous faites mal, ou une photo de contrôle, ils sont mal au pied, ou ils ne se font pas mal au pied. Voilà. En gros, c'est ça. Ils doivent s'imaginer en première personne ou en troisième personne. Et chaque fois qu'ils voient une photo dans le scanner, après avoir vu cette photo, on leur demande, sur une échelle analogique, de nous dire quelle douleur vous pensez que cette personne aurait reçue dans cette situation ou dans celle-ci. Ici, c'est aucune douleur, ici, c'est plutôt beaucoup de douleur. Ou bien vous-même, combien vous auriez eu mal si vous étiez dans cette situation. Donc, j'ai un peu vite. Qu'est-ce qu'on trouve si on compare? Comment on a mal, comment quand on voit quelqu'un qui a mal, ou soi-même, les deux d'ailleurs, le réseau cérébral qui s'active à la vue de ce type d'image n'est pas de celui-ci, On fait une soustraction, si vous voulez, tout ça contre ces conditions. Et celle-ci, donc, on enlève tout ce qui est visuel, reconnaissance d'images, d'objets, de couleurs. On regarde l'aspect ici, ça fait mal, ici ça fait pas mal. On a un réseau que vous voyez très très bien ici, l'insula antérieure, le cortex cingulaire antérieur ici, la SMA, qui est un réseau moteur de préparation motrice, le cortex préfrontal dorsolatéral, et le thalamus antérieur. On a une partie du réseau qui traite les aspects affectifs et motivationnels de la douleur, qui s'active automatiquement quand on voit quelqu'un qui a mal. On s'imagine aussi. Et si on regarde les échelles analogiques, plus les personnes en scanner évaluent la douleur forte, plus l'activité dans l'air, les ACC, comment on appelle ça, le cortex cingulaire antérieur s'active de façon linéaire avec les échelles subjectif de douleur. Alors c'est la même chose, vous savez, cette histoire de neurones miroirs qui sont mis un petit peu la tarte à la crème des neurosciences maintenant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les neurones miroirs sont venus vraiment la tarte à la crème, ça explique tout, soit autrui c'est pareil, mais tout le temps. C'est un petit peu plus complexe que ça, effectivement, il y a un partage, quand on voit l'autre qui a mal, on active dans soi certains réseaux qui sont communs à sa propre douleur. Ceci dit, quand on regarde les choses un petit peu plus finement sur le plan anatomique, et mes deux prochains diapos vont un peu plus en détail dans l'anatomie, on s'aperçoit qu'il y a des différences qui sont essentielles entre soi et tout. Donc c'est pas des neurones miroirs, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, quels sont-ils? Si on regarde soi et autrui, la partie du cortex cingulaire antérieur, qui est dorsale, s'active dans les deux cas, imaginez soi, autrui, avoir mal. Et quand on imagine soi, je ne sais pas si vous arrivez à le lire le bleu, moi je n'arrive pas d'ici, c'est un autre aspect du cortex cingulaire antérieur qui est dans une partie ventrale. Et maintenant, si on regarde les courbes de réponse de l'IRM au cours du temps, la réponse hémodynamique, ça prend du temps, ça prend entre 4 et 5 secondes pour arriver à un pic, c'est de la limite de cette technique d'ailleurs. On a ici le pic pour soi, quand on imagine soi avoir mal, et c'est très rapide, c'est significatif pour cette région-là. Et quand c'est l'autre, c'est du bruit, il n'y a pas de différence dans cette région. Et maintenant, si on regarde l'insula postérieure, c'est encore plus intéressant. L'insula, non pas antérieure mais postérieure, s'active quand on imagine soi, mais pas autrui. Donc s'imaginer soi, là on est vraiment dans un mécanisme complet de superposition entre ses propres représentations neuronales qui traitent une partie de la douleur et celle qu'on aurait si soi-même on avait mal. C'est ça qu'on veut dire. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on regarde l'anatomie, qu'elle a une région cérébrale, elle a une histoire. Elle a une géographie, et puis elle a une fonction. Et cette fonction est simplement due à sa situation architectonique, rappelez-vous au cours quand vous étiez étudiant, et à sa connectivité, chose qui est complètement ignorée, bien sûr, par les gens qui font de l'IRM, ils sont tout contents, ils nous disent l'aire motrice supplémentaire s'active, les neurones miroirs s'activent, c'est tout. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette partie du cortex cingulaire antérieur, et une partie qui, par sa connectivité et sa situation architectonique, est impliquée dans le contrôle viscéral, dans le système sympathique et parasympathique. Et l'autre, qui est en vert ici, est une autre partie du cortex cingulaire antérieur qui est impliquée dans les fonctions exécutives d'attention. Donc, voir un truc à mal active cette partie du cortex cingulaire, des composants attentionnels et exécutifs, mais beaucoup moins cette partie qui est viscérale. On peut dire la même chose, j'ai d'autres études à vous montrer, on peut dire la même chose de l'insula, la même chose. Tout le monde est content de raconter que l'insula antérieure s'active dans l'empathie, c'est vrai, c'est ce que je vous ai montré, mais quelle partie de l'insula s'active dans l'empathie et pourquoi? La partie antérieure de l'insula antérieure s'active dans le dégoût, mais pas du tout spécifique à l'empathie et à la douleur. Et comme une fois, on a vu qu'il y avait l'insula antérieure est impliquée dans le système nerveux autonome, et l'insula postérieure, n'est-ce pas Bernard, les gens qui travaillent dans la douleur savent très bien que c'est ici qu'ils ont besoin d'être en électrode s'ils veulent recueillir des signaux qui codent la douleur, l'intensité. Dans la suite postérieure, pas antérieure, d'ailleurs c'est ce qu'on fait une étude de Lyonnais, Ostrowski, je crois, et le groupe de Montier-Ragnon, il y a quelques années, ont fait cette étude magnifique où ils ont implanté des patients dans la suite, ici vous voyez les sites dans lesquels ils ont pu envoyer un courant électrique, par exemple, ils ont le courant électrique. Alors là, ce qu'ils voulaient faire dans cette étude, c'est voir quelle était la partie de l'insula, où étaient les sites qui permettait de déclencher de la douleur ou pas. Et ce que vous voyez ici, c'est que les sites qui permettent de déclencher de la douleur chez ces patients sont situés dans l'insula postérieure et non pas antérieure. Donc vous voyez la distinction et l'intérêt d'avoir une vision neurobiologique fine de ces travaux en neurosciences sociales, plutôt d'être content de dire l'insula s'active, le cortex singulaire s'active, donc des mécanismes miroirs, on a découvert l'empathie. C'est un petit peu. La deuxième étude, que je voudrais vous proposer, je ne sais pas combien de temps il reste, est toujours basée sur cette idée qu'on peut imaginer soi ou imaginer l'autre. Ça, c'est important. C'est important parce qu'il y a une relation entre l'empathie, les comportements moraux et le raisonnement moral. Et une autre chose qui est importante, qui vient de la psychologie du développement, c'est que les enfants, quand je dis individus, ici c'est enfants, petits, ils sont capables de réguler leurs émotions, sont beaucoup plus... auront davantage de comportements de sympathie envers les autres et plus tard de comportements moraux envers les autres, à condition qu'ils régulent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais vous montrer ici, c'est que l'idée, c'est que si simplement on raisonne émotionnellement avec les autres, on partage, c'est une chose, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il faut être capable de réguler nos propres émotions pour pouvoir interagir avec les autres. Dans cette étude, ce qu'on a voulu faire, je vais vous mettre tout sur l'écran, donc ce sera plus simple. Et là, cette fois-ci, on ira vous montrer des vidéos, qui sont des vidéos très courtes, il n'y a pas besoin de son, de l'enlever. Des vidéos courtes, et on a expliqué que ce sont des patients qui ont été filmés en Autriche, parce que j'avais fait une vidéo en Autriche. Ces patients ont une condition neurologique, ils ont mal, ils ont un problème neurologique, on appelle le tinnitus cordium, et certains sont leur font mal. Il y a une nouvelle thérapie, c'est une histoire qui est fausse, bien sûr, qui est bonne, ce qu'on dit. Les nouvelles thérapies, on leur fait écouter des sons de certaines fréquences qui leur font mal. Et on dit à nos sujets dans l'IRM de regarder ces personnes et de remplir les échelles. Ces personnes sont des patients. Quand ils écoutent ces sons de certaines fréquences, ils ont vraiment mal. Et c'est vrai, les vidéos sont vraiment faites. J'ai envoyé un son qui fait mal, qui est très désagréable. Donc c'est pas fake. Je vais vous en montrer une. Et puis je t'en montre une autre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'expression émotionnelle de la personne, de la douleur. Ça ne marche pas. Vous ne l'avez pas vu non plus ?
Non.
Ah, c'est pas bien. Ah, si, il marche. Voilà. Il a vraiment mal. D'accord ? Et c'est le deuxième facteur qu'on manipule dans l'IRM. Nos participants leur demandent on leur dit une autre chose, une autre façon de réguler les émotions de l'observateur, c'est d'expliquer que dans un cas, la thérapie, ils ont tous eu mal. Il y en a 64 comme ça. On les montre un par un, bien sûr. Pour certains, la thérapie a été effective. Ils vont aller mieux. Pour l'autre groupe, la thérapie n'a pas eu d'effet. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez quelqu'un qui souffre pour rien et une autre personne qui va souffrir, mais pour son bien, si on peut dire les choses aussi naïvement. C'est une façon de réguler ses émotions. Et qu'est-ce qu'on montre ? La première chose, alors ça c'est le design, c'est pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a effectivement à nouveau ce partage entre les mécanismes qui traitent la douleur en première personne et en troisième personne, parce que dans cette étude, on a aussi une condition, je l'ai déjà dit, nous avons une condition où les sujets dans le scanner reçoivent des sons qui font mal, ce que vous voyez ici. Quand les sujets écoutent des sons qui font mal, l'activation se trouve dans l'insula postérieure et antérieure, mais aussi postérieure et très très forte. Cortex auditif, bien entendu, puisqu'il y a des sons, le thalamus, certains aspects du cortex singulaire antérieur, la SMA, et cette structure qu'on appelle la péricardiaque, qui est une structure qui inhibe la douleur, c'est intéressant. C'est un cluster neurone dont la fonction est d'inhiber la douleur. On a donc le réseau impliqué dans le traitement de la douleur. Il n'y a rien de très nouveau, puisque de toute façon, ils ont mal. Et quand ils perçoivent des vidéos de personnes qui ont mal, ce réseau est largement partagé. C'est ce réseau qu'on appelle un miroir. Je ne sais pas si c'est des neurones miroirs, encore une fois, je ne fais pas attention de ne pas utiliser ce terme, un réseau en résonance, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, qui s'active, vous voyez, tout ce qui est en jaune, ce sont les mêmes régions qui s'activent simplement en regardant quelqu'un qui a mal. Et là, il n'y a pas les sons. Donc on a simplement l'information visuelle. On a un partage qui comprend d'ailleurs l'amygdale, la SMA, etc. Mais, et bizarrement, bien entendu, pas la péricardiaque, parce qu'il n'y a plus de raison d'inhiber la douleur, puisqu'on n'a pas la parole à soi-même. N'exagérons pas. On peut voir les autres avoir mal, on active une partie de son réseau de la douleur, ça ne veut pas dire qu'on a souvent mal. On peut dire I share your pain. Ça n'a pas de sens. On ne ressent jamais la douleur de l'autre. On la comprend. On la partage au niveau infraliminaire, mais on la ressent pas. On voulait voir la différence qu'il y avait quand on regarde ces vidéos. Ils regardent 64 vidéos dans les scanners, et après les vidéos, on leur fait passer des échelles où on essaie de voir leur hepatic cancer, leur sympathie, on va dire en français, ou est-ce que les sujets qui ont observé sont capables d'évaluer leur détresse émotionnelle. L'idée, c'est que lorsqu'on imagine soi-même être dans la situation d'un patient qui a mal, on va déclencher davantage de dépression émotionnelle, c'est ce qu'on montre ici. Quand on s'imagine soi, là, on a plus de rapport de détresse personnelle que pour l'autre, et c'est exactement l'inverse. L'empathie pour soi, le sentiment de sympathie, et pour l'autre, et pas pour soi, ou très peu pour soi. Il y a quand même des gens qui m'ont dit qu'on peut avoir empathie pour soi-même. J'ai du mal à comprendre pourquoi on a cette empathie. En principe, c'est pour autrui. Et ces variables sont modulées. C'est ce qu'on veut aussi, par aspect de régulation émotionnelle. Si on voit quelqu'un qui a mal, mais qui va mieux grâce à la thérapie, on a tendance à être moins dépressé émotionnel que si cette personne a mal et la thérapie n'a pas été effective. Dans l'amygdale, on rappelle que l'amygdale joue un rôle crucial dans le traitement des émotions, en particulier les émotions négatives et la peur. Et c'est finalement un marqueur très intéressant dans cette étude, parce que ce que je vous montre ici, c'est que l'amygdale s'active davantage quand on s'imagine soit avoir mal qu'imaginer l'autre. Ça, c'est significatif. Donc, c'est une réponse aversive, on s'imagine qu'on a soi-même, qu'on a mal, plutôt que l'autre, et cette activité augmente significativement dans cette condition de l'imagination de soi. Quand on regarde quelqu'un qui a mal, ce patient qui a mal, et qu'on doit mesurer sur une échelle analogique la, comment on dit, unpleasantness dans le cadre de la douleur, dharma. Le désagrément que provoque la douleur, merci. Vous voyez, on a aussi une réduction dramatique de ces échelles de désagrément subjectif de la douleur de l'autre, parce que dans ces conditions, ça veut dire la thérapie était effective, et elle n'était pas effective. On a l'impression que l'autre a moins mal, ou a moins mal parce qu'on sait que le traitement qui fait autant mal a produit son effet. C'est intéressant, cette modulation de la perception de la douleur de l'autre par la connaissance que nous avons de la conséquence du traitement. Et les régions qui covarient avec cette manipulation sont des régions impliquées dans la régulation des émotions, le cortex occipital et le cortex cingulaire antérieur. Enfin, on se trouve ici. Dernière étude, pour finir mon histoire. Je vous ai dit que quand on perçoit quelqu'un qui a mal, moi je pense que la première réaction, une réaction automatique, non consciente, de partage affectif, de partage de la douleur, et que si on se met en première personne, ça déclenche de la détresse émotionnelle. Imaginez la situation que rencontrent les infirmières, les anesthésistes, les chirurgiens, et beaucoup d'autres, on dirait même un boucher, pourquoi pas d'ailleurs. C'est plus difficile de boucher, parce qu'on va savoir pourquoi on dit un boucher. Ça va être une évidence en tant que tel. Mais imaginez la situation qu'ont les professionnels de santé, qui sont dans ces situations-là. Ils sont donc dans des situations qui perçoivent comme nous, pas comme moi en tout cas, pas ça. Donc il est nécessaire et même indispensable qu'ils soient capables de réguler ce mécanisme qui est automatique, qui n'est peut-être pas si automatique que ça, puisqu'on peut le réguler. Vous savez que l'automaticité en sciences cognitives, c'est que c'est un processus qui est non conscient, automatique, et qu'on ne peut pas réguler. C'est ça la définition d'un Fodor. Vous pourrez dire, vous en fichez complètement de Fodor, vous avez des raisons. Il a fait un livre que personne n'a lu, mais tout le monde répète ce qu'a dit Fodor, en disant, c'est du rapide, des sciences cognitives. Moi, je m'en fiche de Fodor. Mais c'est vrai que l'automaticité, normalement, on ne peut pas la réguler. Donc, qu'est-ce qui se passe chez ces professionnels? C'est pas possible, vous pouvez pas travailler dans un champ opératoire, vous pouvez pas être une infirmière sur un champ de bataille si vous-même vous êtes en détresse émotionnelle à la vue de la souffrance de l'autre. Il faut pouvoir la réguler. Sinon vous allez trembler, vous n'êtes pas dans une condition Et c'est des choses que vous expliquez à ça très bien. Vous avez une relation avec un. Vous devez garder votre distance avec l'autre pour pouvoir conserver votre propre sécurité, sinon vous seriez complètement éreinté à la fin de la journée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Taïwan parce que j'ai une collaboratrice à Taïwan qui est psychiatre, qui avait fait son postdoc avec moi à Seattle. Et puis, quand elle est venue à Taïwan, elle a voulu continuer à travailler avec moi. Et voici l'étude qu'on a finie et qui est en cours de publication. Dans cette étude, ce qu'on a voulu faire, on a pris, c'est la dernière étude de mon exposé, on a pris deux groupes de médecins. Un groupe de médecins est un groupe de médecins qui n'a aucune pratique d'acupuncture. L'autre groupe de médecins est un groupe qui pratique l'acupuncture depuis entre 5 et 10 ans. Ce sont des groupes donc, très homogènes. Et on les met dans le scanner et on leur montre des petites animations très courtes, ce n'est pas des images statiques, des animations très courtes qui sont soit quelqu'un qui pose sur une partie du visage, du pied ou de la main, vous avez compris pourquoi je fais ça, voir s'il y a une somatotopie, un coton-tige, tout ça, Q-tip, oui, coton-tige, sur une partie du visage, ou, dans d'autres conditions, ces petites animations nous montrent l'acupuncteur qui insère une aiguille d'acupuncture dans la région de la bouche, la région du pied ou dans la région de la main. Ce sont des régions que les acupuncteurs, je ne sais pas si ça, je ne sais rien du tout, ce sont des régions qui sont pratiquées en acupuncture. Ce n'est pas des trucs bizarres. Les acupuncteurs mettent des aiguilles, ça fait mal. Heureusement, ce n'est pas moi qui fais ça, mais mon étudiante qui travaille avec moi, elle a été l'un des sujets à se remettre des aiguilles, à faire des photos, et la pauvre, elle pleure. On a demandé à nos participants, ces médecins, dans ce cas-là, quand ils voyaient ces animations, de nous donner l'intensité de la douleur qu'il avait et de son désagrément. J'ai appris un désagrément. Et puis nous avons récupéré avant l'étude des mesures qu'on appelle dispositionnelles en anglais, vous allez dire de personnalité. Chez tous ces médecins, nous avons mesuré leur self-report sur comment ils perçoivent la douleur des autres. Il y a un outil qui s'appelle le SPQ, je ne sais pas si vous l'utilisez, qui essaie de mesurer subjectivement notre propre sensibilité à la douleur, sens physique du terme, bien sûr. On a demandé à nos médecins de remplir des échelles de contagion émotionnelle, comment ils se sentaient, eux, touchés par les émotions d'autrui. Et enfin, des questionnaires d'empathie, ça existe, il y a surtout les Américains qui adorent les self-reports, comme vous savez. Donc on demande aux gens de remplir une case, et puis après on calcule un quotient, etc. Ça marche bien, c'est bien. Donc vous voyez le plan, un petit peu. La première chose que je peux vous dire, pardon. Parce que j'ai pas dit. La première chose, c'est que ces deux groupes n'ont aucune différence sur leurs échelles d'empathie. C'est la même chose. Ce sont deux groupes où les scores sur les échelles d'empathie, de contagion émotionnelle et de SPQ sont les mêmes. Donc il n'y a pas de différence. Si elle avait, ce serait embêtant pour nous. On ne cherche pas à savoir quelle est la différence intra-individuelle entre quelqu'un qui est très fort en score d'empathie puis son activité dans la vie d'âge. On peut faire ça. Et c'est parce que nous, ce qu'on cherche, c'est. Qu'est-ce qui se passe? On a une prédiction, bien sûr. Un professionnel de la santé qui voit une situation, qui connaît, il sait que ça fait mal quand même, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'acupuncture, c'est pas indolore. Les régions de la bouche, je veux dire, ça fait mal. Bah, je sais pas, j'ai dit. Mais ça fait mal. On la sent l'aiguille. Puis il les tourne. Pas comme dans le dos, dans les fesses, on sent pratiquement rien. Ici, ce sont des régions très sensibles. Donc l'idée, c'est que comme ils savent que c'est leur pratique, ils doivent réguler leurs émotions. Jusqu'où vont-ils réguler? Ils sont capables de réguler ce réseau automatique apparemment qu'on a, qui s'active quand on perçoit autrui qui a mal, lui ou non. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, vous voyez les petites animations, vous voyez qui bougent. Vous avez ici le groupe contrôle, le groupe des experts. Vous savez où est l'insula antérieure. Et bien les groupes contrôle, comme dans toutes les expériences d'IA que je vous ai proposées, et d'autres collègues ont fait les mêmes expériences sur la perception de la douleur d'autrui. Les médecins qui voient une acupuncteur insérer une aiguille activent leur insula antérieure, leur cortex cingulaire antérieur, même d'ailleurs cette structure qui lie la douleur. Donc, comme dans les autres études, le fait de voir quelqu'un mettre une aiguille, ça active automatiquement ce réseau. Et regardez au même niveau de coupe ce qui se passe chez nos 14 acupuncteurs. Aucune activité dans l'insula antérieure. Aucune activité dans le cortex cingulaire antérieur ou dans la SMA. Rien. Ce réseau automatique n'est pas du tout activé. Ça, c'est l'intensité qu'ils perçoivent quand on voit. Eux ont tendance à évaluer un peu moins de douleur en tant qu'experts que les médecins de contrôle. Et pour le désagrément, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de désagréments pour un médecin ordinaire, on va dire, et beaucoup moins pour l'expert. Je vais le mettre. Maintenant, l'autre chose qui nous intéressait, c'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir une bidon dans la bouche ou dans le jambe du pied, on a cette coton-tige qui est posée. Ce que vous voyez ici, c'est l'activité dans le contexte somatosensoriel. Quand on perçoit quelqu'un qui est touché, il y a une activité en résonance dans le contexte somatosensoriel qui apparaît. Mais ici, encore une fois, on voit une différence importante entre les experts et les contrôles pour la main et pour le pied. Il a fait la même chose. Voilà. Donc, les médecins contrôles ont davantage entré en résonance somatosensorielle que les médecins contrôles, ceux qui pratiquent l'acupuncture. Donc, si je mets tout ça dans une sorte de modèle qui est très simpliste, évidemment. Évidemment, c'est simpliste, on a besoin de modèles pour avancer en science, on ne peut pas faire sans. Voilà, je mets tout ensemble, comme ça on est tranquille. Voilà ce qui se passe apparemment. C'est que nous sommes câblés dès la naissance. Le système nerveux est câblé pour entrer en résonance émotionnelle, motrice avec les autres. C'est en partie ce que nous marquons les neurones de mémoire pour l'action. C'est quelque chose qui est automatique. On ne l'apprend pas. C'est comme ça que le système marche, fonctionne, se développe. C'est très important que vous développez. Si ce système ne marche pas, en particulier dans le cas des émotions, on aura des conséquences qui sont importantes au niveau individuel. Je vous ai donné le cas de la psychopathie et des problèmes sélectifs qu'ils ont dans la perception du dégoût, de la détresse et de la peur. Il n'y a pas de partage pour ces émotions et ça a des implications énormes sur le plan du comportement, comme vous savez. On peut dire la même chose pour l'autisme dans d'autres aspects de ce partage affectif. En tout cas, ce partage affectif, parce qu'il est là, dès la naissance, il permet de rentrer en interaction. C'est un mécanisme qui est non conscient, qui est non réflexif, et qui permet de rentrer en résonance affective avec l'autre. Et ça ne suffit pas, ça. Ça permet de développer des représentations qui sont partagées, comme de partagées. Et parce qu'on a cette capacité de distinguer soi d'autrui, on est conscient de soi, et on a ces capacités exécutives de régulation et de contrôle, on peut développer quelque chose qui est beaucoup plus complexe, et qui est sans doute spécifique aux êtres humains, qu'on appelle la métacognition, qui elle est intentionnelle, réflexive et consciente. Et donc c'est un jeu complexe de traitement d'informations qui est à la fois bottom-up, ce qui arrive de la perception. On a quelqu'un qui a mal, on active notre insula et on sait que l'autre a mal, on voit de toute façon. Mais en plus, c'est désagréable. Notre insula nous dit que c'est quelque chose de désagréable. On n'a pas la douleur de l'autre. Et l'insula nous dit c'est désagréable, c'est quelque chose de négatif, de dangereux. Et on a des mécanismes aussi de régulation de ce comportement, je vais vous montrer. Un agriculteur, quand il voit une aiguille qu'il a implantée, il n'agit pas du tout de la même façon. Heureusement, s'il réagit de la même façon, il ne serait certainement pas dans une condition pour faire sa pratique médicale avec tout son art. Voilà un petit peu un modèle un petit peu simpliste, sans doute, mais qui permet de remettre les choses dans un contexte un peu plus sophistiqué que ce qu'on raconte sur les neurones noirs, chose un peu plus complexe, montrant que ça participe au partage affectif, au développement de l'intersubjectivité. Ça l'est moins dès que l'intersubjectivité, ce sont les fondations qui sont nécessaires et qui peuvent être régulées. Et tout ça, évidemment, c'est toujours à placer dans un contexte, une situation, une histoire individuelle que personne ne prend en compte, évidemment. On n'est pas capable, c'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas en neurosciences aujourd'hui s'intéresser à l'histoire individuelle des gens. On ne peut pas, on n'a pas les moyens. C'est pas notre niveau d'analyse. On n'y arrivera sans doute, il faut le faire. Et puis ce qu'on ne peut pas faire du tout dans le laboratoire, c'est de remettre la vie dans un contexte. Dans la vie de tous les jours, nos interactions sociales arrivent dans des contextes particuliers. On reproduit des choses très simplistes dans une IRM, on ne peut pas revenir à un contexte. On ne répond pas de la même façon à la douleur si on est dans la rue et on est occupé à savoir où j'ai garé ma voiture, je ne me rappelle plus, mais on voit quelqu'un qui a mal, il est peu probable qu'on active automatiquement notre histoire de douleur. On a autre chose en tête. Maintenant, si vous êtes en situation de conflit, vous êtes en train de faire la guerre, la même chose, vous n'allez pas du tout avoir une réaction à la douleur de votre ennemi qui souffre, de la même façon si c'est quelqu'un de votre groupe. Donc, tout ça, c'est compliqué, et ça met dans un contexte, une situation, et une histoire individuelle qu'on ne comprend pas en compte actuellement comme on recherche. Voilà. Et pour terminer, j'ai fini, je crois.
J'ai encore 5 minutes.
Pour conclure. Dans mes travaux, je fais toujours une part importante à cette idée de on est conscient, alors j'ai encore une diapo, c'est la dernière, on est conscient de soi. Je crois que c'est très important dans ces mécanismes d'interchangeabilité là, cette conscience qu'on a de nous-mêmes. Et dans toutes les études, que moi j'ai faites récemment, il y en a 4, pas beaucoup, systématiquement quand je compare les activations qui sont dues à imaginer l'autre versus soi, systématiquement, on a cette activité toujours au même endroit, à quelques millimètres près, dans une région qu'on appelle la jonction temporo-occipito-pariétale. Ce n'est pas une région magique qui est apparue, on ne voit pas, mais très prudent ce que je dis. Et ce que je veux dire, c'est que cette région, pour de nombreuses raisons, qui sont non pas simplement des raisons de neurosciences cognitives, mais également qui nous viennent de la neuropsychologie clinique, de travaux sur la schizophrénie qui avait été fait à Lyon avec Georges F. et Nicolas Franck il y a quelques années, et Marc Jabot, eh bien, cette région semble jouer un rôle critique dans la distinction entre soi et autrui. À un niveau très primitif, simplement les signaux qui sont produits par le corps, à l'intérieur du corps, sont comparés avec des signaux qui arrivent de l'extérieur, c'est tout ce que ça veut dire. Une comparaison entre ce qui est de soi et du monde. Cette région joue un rôle critique, ça veut dire que c'est la région de la distinction, elle joue un rôle important. Et je crois que c'est très important parce que l'empathie nécessite, j'ai un texte qui va apparaître, c'est que l'empathie nécessite pas simplement de partager l'émotion d'autre, mais de la comprendre. Le partage, c'est pas suffisant à la compréhension. Et d'ailleurs, on dissocie les deux. Les deux peuvent se dissocier. On peut très bien partager l'émotion de quelqu'un, comme quand on danse, dans tout ça. On a besoin de la comprendre. Mais notre rôle, nous, c'est de comprendre pourquoi les gens ressentent quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Et ça se nécessite, sans doute, des mécanismes de distinction entre soi et autrui, un peu plus sophistiqués que le partage émotionnel tout simple. Et récemment, ce que j'ai fait, ça, c'est un papier qui va sortir bientôt, ça m'a vraiment intrigué de me dire, ah, cette région qu'on appelle donc la TPG, TPG en anglais, la temporoparietale à droite, c'est une région qu'on retrouve également dans toutes les tâches de théorie de l'esprit. Donc il y a des collègues comme Rebecca Sachs qui dira, ah, il y a la région, et Rebecca Sachs est une étudiante de Nancy Kalmischer. Donc il y a des gens, dans une collègue, qui sont très modularistes, ils veulent trouver la région du visage, la région de l'empathie, la région de la théorie d'esprit. Et moi, j'ai une vision beaucoup plus distribuée de ces choses-là. Je crois pas qu'il y ait une région pour les visages. Il y en a une, sans doute, une région d'expertise visuelle, qui n'est pas propre au visage d'ailleurs. Mais la région de la théorie d'esprit, je ne crois pas que ça existe. Et ce que j'ai voulu voir, c'est faire une méta-analyse vraiment complète, quantitative. Donc j'ai repris 70 études, avec un étudiant, 70 études récentes, 24 qui ont des coordonnées sur la théorie de l'esprit, 13 sur l'empathie, 15 sur l'agentivité, et 18 aussi, ça c'est intéressant, sur des études sur l'attention. Quand l'attention doit switcher d'un endroit à l'autre. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que toutes ces conditions, on va dire toutes ces tâches, théorie de l'esprit, empathie, agentivité, même attention à des stimuli qui sont saillants, activent exactement la même région. Donc je pense que cette région n'est pas du tout spécifique à la théorie de l'esprit, et certainement pas à l'empathie, simplement. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est le plus petit dénominateur commun de cette région? C'est sans doute la distinction entre les signaux qui viennent de soi et les signaux de l'extérieur. Et c'est une région qui est importante dans la perspective. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que quand on perçoit quelqu'un qui a mal, qui est dans le là, cette perception active relativement automatiquement les circuits neuronaux qui sont impliqués dans les traitements au moins affectifs et motivationnels de la douleur. Nous avons vu également que ce mécanisme de partage permet de superposer finalement une carte affective qui vient d'autrui sur la nôtre, Et cette translation va dans les deux sens, ça va de soi à autrui, aussi bien que d'autrui à soi. Et nous avons vu également que selon l'overlap qu'il y a, la superposition, ça peut donner lieu, s'il y a énormément de superposition entre soi et autrui, ça donnera lieu à un comportement self-centré, c'est la détresse émotionnelle dans le cadre de la douleur, ou de sympathie, s'il y a moins de partage. Pour pouvoir avoir la sympathie, il faut pouvoir distinguer soi d'autrui et comprendre ses émotions et y répondre. Et enfin, je vous ai montré dans la dernière étude avec les acupuncteurs que ce mécanisme qui est sans doute relativement automatique, peut être régulé et doit être régulé pour pouvoir entrer dans des interactions sociales efficaces ou adaptées dans une situation. Je vous remercie.